Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas s'il y en a qui vont arriver, mais je voulais vous... Monsieur Boucher, bonsoir, bienvenue. Donc je vous souhaite à tous, et vous bien évidemment, bon accueil, bon retour après ces vacances, et puis bon accueil au public. Je propose que nous fassions d'abord l'appel, donc que je confie à Madame Biel. Merci.
Bonsoir à tous. Yves Bayon de Noyer. Présent. Marie-Hélène Biel, présente. Laurent Bresson. Présent. Hélène Mérigot, représentée par Marie-Hélène Biel. Stéphane Mathieu, représenté par Laurent Bresson. Eliane Gomez, présent. Christian Royer, présent. Christiane David Mathieu, présent. Patrick Gay, présent. Olivier Louis, représenté par Patrick Gay, Jean-François Leclerc, représenté par Jacques Nicolas, Roland Tavernari, présent. Françoise Fortuné, présent. Jacques Nicolas, présent. Thierry Blanès, représenté par Patrick Villon, présent. Chantal Vedel, présent. Florence Lecomte, présent. Lionel Gomez, présent. Florence Andrujewski, présent. Elisabeth Pereira, présent. Laurent Rémy, présent. Sylvie Bourdelin, ah, elle va arriver. Oui. Estelle Schneider, Marine Bouillin, Jacques Olivier, Christiane Martin, Bruno Ripoll, Véronique Agoguet-Fernaillon.
Merci. Très bien, donc on notera les arrivées des deux qu'on n'a pas coché absent qui vont arriver. Donc notre conseil municipal est ouvert et je voudrais d'abord, si vous le permettez, que nous ayons un moment de silence en hommage à deux personnes qui nous ont quittés et qui se sont investies fortement au sein de notre collectivité puisqu'ils ont été élus conseillers municipaux. Je voudrais d'abord parler de Pierre Farot qui nous a quittés dans le courant du mois d'août. Donc Pierre Farot a été d'abord instituteur au tas de Grange, puisque c'était une époque où nous avions encore une école, et c'est comme ça qu'il a démarré sa carrière, peu de temps, je dirais, après la guerre. Et puis ensuite, il a été instituteur sur les écoles du Thor, hein, et bon, il a été directeur, et il a terminé sa carrière comme directeur à l'école à Lille-sur-la-Sorgue. Donc Pierre Farot a été élu conseiller municipal de 77 à 83, avec Gaston Manuel, et ensuite il a été premier adjoint de 83 à 89. Donc c'est un taurois, un ancien taurois, puisque sa famille est originaire du Thor, de très grande qualité humaine, et bon, je dirais, mon père avait des liens, je dirais, d'amitié construits durant la guerre avec Pierre Farot, et je souhaitais qu'on lui rende un hommage tout à fait particulier. Et puis une deuxième personne nous a quitté un peu plus récemment, là, dans le courant du mois de septembre. C'est Bernard Heinz qui a été élu au conseil municipal de la précédente mandature de 2008 à 2014, qui a notamment assuré des responsabilités de coordination en matière de sécurité et qui a été investi dans plusieurs commissions, dont la commission urbanisme et travaux. Et je voulais souligner d'une part la très grande courtoisie et humanité de Bernard. Je peux dire que les sapeurs-pompiers, Lionel Gomez pourrait en témoigner, ont eu un attachement à lui parce que c'était un homme qui était présent, qui venait les voir, même s'il n'y avait pas de soucis particuliers, ben pour les rencontrer, qui venait les voir le dimanche matin pour ceux qui étaient en astreinte. Et ceci est signe de quelqu'un qui s'investissait pour le bien public. Donc si vous permettez, je souhaiterais que pour ces deux personnes, nous ayons une minute de silence. Alors, dans notre conseil de ce soir, nous avons 9 rapports, outre les décisions, 2 qui traitent des écoles, puisque pour les élèves qui sont dans les écoles de Cavaillon et d'Avignon, un autre délibération qui traite du transfert de compétences assainissement, 4 qui traitent des aspects ressources humaines, emploi, une qui traite de subventions aux associations de solidarité, l'une qui traite d'une délibération modificative numéro 2, donc en matière de finances. Et puis ensuite, je souhaite que nous ayons un échange sur la question de l'accueil des migrants, comme je vous l'ai annoncé. Et puis enfin, nous avons réponse aux questions orales qui nous ont été posées par Monsieur Olivier. Donc préalablement, je soumets à votre délibération l'approbation du compte-rendu de la dernière séance du Conseil municipal qui s'est tenue le 7 juillet dernier. Donc y a-t-il des commentaires sur l'approbation de ce compte-rendu ? Oui, Monsieur Olivier.
Oui, suite à une mauvaise compréhension sûrement, nous avons fait corriger en juillet le vote concernant le livre, et sur la correction, elle est encore fausse. Bon, en fait, il y a dû y avoir, ça a été un petit peu embrouillé. Donc, clairement, puisqu'on approuve le PV et que c'est pas encore, la correction n'est pas faite, c'était 1 pour et 3 contre. Et là, dans le PV, il y a marqué 4 contre.
La délibération de...
C'était la délibération de juin, du mois de juin, qu'on a corrigé voilà. Au mois de juillet, et la correction est fausse.
Donc c'était 1 pour et 3 contre.
1 pour, 3 contre.
3 contre. Donc Sénada, vous le prenez en compte ? D'accord. Bon. Ok. Très bien. Merci. Excusez-nous de cette erreur. D'autres commentaires ? Non ? Donc je soumets à votre approbation le procès-verbal de compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 7 juillet 2015. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Contre ? Donc 3 contre ? 3 contre ? Oui. Oui, d'accord. Donc approuvé à la majorité. Donc merci bien. Laurent Rémy ? Oui, tu prends le micro parce que c'est enregistré, comme tu le sais.
Oui, juste pour vous indiquer que, comme prévu, les comptes rendus audio sont désormais en ligne sur le site internet. Donc vous aurez loisir à confirmer les informations. Et donc la totalité des débats, donc des conseils municipaux, comme promis, sont désormais en ligne. Voilà. Depuis quelques jours, pour les derniers, en effet. Mais on est remonté jusqu'à l'année dernière, me semble-t-il. Ouais. Ça demandait un travail conséquent, mais c'est bon. C'est opérationnel.
Merci bien. Merci. Donc, le point suivant se traite des communications des décisions du maire, qui sont, je dirais, assez nombreuses, puisque nous avons 2 mois, je dirais, sans tenue de conseil municipal. Je voulais en souligner quelques-unes. Nous avons remis dans le normatif la location d'un immeuble qui a été confié à l'EHPAD. Cet immeuble, depuis, je ne sais pas combien d'années, a été confié à l'EHPAD sans qu'il y ait du tout de bail et de règlement entre l'EHPAD et la mairie. Donc nous avons passé une convention pour remettre ça d'équerre avec un montant d'un loyer mensuel de 400 euros mensuels. Bon, un certain nombre de marchés de services traitent de l'ensemble des prestations assurées aux bourdistes durant, je dirais, cet été, hein, donc qui sont, je dirais, assez nombreuses. Nous avons le marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux dans divers bâtiments communaux, donc qui ont été confiés à un cabinet d'architectes, avec la liste des dossiers qui lui sont confiés. La réalisation de l'arrosage intégré au stade Roger Faury, donc ceci a été réalisé dans le courant du mois de juillet. La mission de maîtrise d'œuvre pour la construction du skatepark et d'un plateau sportif. Voilà dans les points, je dirais, importants. La sous-traitance à l'entreprise CT Access pour les aspects d'accessibilité des bâtiments de la commune. Donc ces travaux ont commencé. La prolongation du marché de l'entreprise Eurovia, qui est un marché à bon de commande pour travaux de voirie et réseaux divers. Et puis un bon de commande pour des fournitures électriques. À distinguer également la mission d'étude du patrimoine bâti et des sites remarquables que nous avons confié à la commune de Lisle-sur-la-Sorgue, et notamment, ou je dirais essentiellement, à sa direction du patrimoine. Voilà, des travaux de signalisation qui font conséquence de la rénovation du parking du collège du Pays des Sorgues, qui ont été confiés à la société Midi Traçage. Et puis, dans le cadre de la restructuration et extension de la crèche, des missions confiées au bureau d'études APAV ainsi qu'au bureau d'études Veritas. Voilà. La rénovation des vestiaires du stade du Bourdis, où l'ensemble des marchés ont été attribués, et les travaux auront lieu au moment de la pause hivernale des équipes de football. Donc c'est comme ça que nous avons traité avec l'UST, de façon à ce qu'il soit le moins perturbé possible. L'achat d'un module complémentaire pour le site internet, donc disponibilité des ressources. Voilà globalement, si vous voulez, l'ensemble des marchés que nous avons été amenés. Je ne les liste pas tous. Et puis l'acquisition de trois stands buvettes en bois qui appartenaient à l'association des commerçants, qui étaient utilisés par la commune, qui étaient utilisés par des associations, qui portaient toujours, un peu à conflit ou litige. Et donc nous avons préféré être maître d'œuvre en la matière. Donc y a-t-il des questions sur les décisions du maire? Oui, Madame Agoguet.
Oui, bonsoir. Je voulais juste savoir à quoi servait le module supplémentaire, c'est tout.
L'expert mondial de l'Internet va vous répondre, Monsieur Laurent Rémy.
Oui, donc il s'agit d'un module en fait qui permet aux associations de réserver en ligne les salles qui leur sont mises à disposition. C'est une demande importante qui avait été souhaitée lors des différentes rencontres avec les associations. Ça leur permet de voir une visibilité en direct de la disponibilité donc des salles et de faire des propositions de réservation en fait. Voilà. Et donc du fait, on a optimisé le système puisqu'on est en train de réaliser les derniers ajustements de manière à pouvoir également au sein de la commune et par les agents avoir une visibilité sur la réservation de matériel type excusez-moi, salle par exemple du conseil municipal. On l'a déployé à d'autres effets, matériel de vidéoprojection, de véhicules, etc. Donc c'est utilisé à la fois pour le Torois, les associations, mais également en interne par les agents. Voilà. Pour un coût de 950 euros pour 3 ans. Hein, c'est ça.
Voilà. Merci Laurent. D'autres? Oui.
Juste une.
Oui, pardon.
Et à chaque fois qu'il y a un module supplémentaire, l'assurance, c'est 50 euros pour l'assistance et à chaque module.
Oui, la mise en place est forfaitée. Mmh. Et ensuite, on a un coût de maintenance, en fait, qui est annualisé et qui est de 50 euros par an. Mmh. Voilà.
Merci.
Monsieur Ripoll. Oui, oui, d'accord. Oh. Oui, 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 oui. Oui, oui, d'accord. Bon, merci bien. Bon accueil. Jacques-Olivier.
Oui. Alors, donc, vous avez parlé de la location de l'immeuble communal de l'EHPAD. C'est quel immeuble, en fait? De quel immeuble?
C'est une maison qui est située de l'autre côté de la rue. Et mais qui est aujourd'hui occupé par l'EHPAD depuis peut-être, oui, 15 ans.
Normalement, dans les accords qu'il y avait, là, elle était donnée à l'EHPAD?
Non, pas du tout. Non.
Et c'était un accord qu'il y avait depuis des années avec l'EHPAD, comme quoi on leur laissait gratuit. Ça a été un accord qui datait déjà de l'époque de Germaine Giraud.
C'est un accord.
Peut-être même avant.
Un accord comme sur les marchés de bestiaux, on t'a tapé dans la main, ou c'est un accord écrit?
Ah, ben à l'époque c'était pire, puisqu'on a passé des années à rectifier le cadastre qui avait été jamais fait, jamais rectifié.
Madame Billet. Au cadastre, cette maison est propriété de la commune. Bon, et donc elle était utilisée sans aucune convention d'aucune sorte, c'est-à-dire demain il y aurait eu un quelconque sinistre, qui était responsable? C'était la commune, c'était l'EHPAD qui prenait en charge l'assurance. Donc nous avons voulu remettre ça en accord d'ailleurs avec la direction de l'EHPAD dans le normatif. Voilà, il fallait le faire, parce qu'on était en zone de danger. D'autres questions?
Oui, alors j'en ai d'autres. Deux autres. Sur l'accessibilité, vous dites que ça a commencé, c'est les études qui ont commencé, je suppose, pas les travaux.
Non, les études, oui, tout à fait.
Les études qui ont commencé, c'est bien ça.
C'est la mission qui a été confiée à l'entreprise Access. Hein.
Là, on a bien compris. Donc, protection fonctionnelle d'un agent du service de police municipale, nous en avons déjà eu un en janvier, je crois. C'est pas le même, je suppose.
C'est différent.
Merci.
Très bien. Donc je vous remercie, puisque ceci ne fait pas l'objet de vote. Nous passons donc au premier rapport, qui traite de la participation aux charges de fonctionnement pour les enfants du Thor, inscrits dans les écoles publiques de Cavaillon. Donc Marie-Hélène Biel, je te remercie.
Les communes ont la charge d'assurer le fonctionnement des écoles publiques du premier degré. En vertu de l'article du Code de l'éducation, elles sont tenues de participer financièrement à la scolarisation des enfants dans les écoles publiques situées en dehors de leur territoire dans certains cas. Bon, je vous fais grâce de l'énumération des cas puisque c'est toujours pareil. Le montant de la participation est normalement fixé par accord entre les communes. Celui-ci est formalisé par une convention. À défaut, il revient au préfet d'arbitrer après avis du Conseil départemental de l'éducation. La commune de Cavaillon a saisi celle du Thor par courrier en date du 15 juin dernier pour solliciter la signature d'une convention pour l'année scolaire 2014-2015. En effet, 5 élèves étaient inscrits pour cette année scolaire dans les établissements publics du premier degré du groupe scolaire des Vinières. Le conseil municipal de cette ville a fixé par délibération en date du 9 avril 2015 la contribution des communes de résidence à 754,58 € par élève en élémentaire et 1404,55 € par élève en maternelle pour l'année scolaire 2014-2015. Il est précisé que, par délibération du 21 mai 2001, la commune de Cavaillon avait décidé de ne demander à celle du Thor et de Caumont-sur-Durance une participation égale à 50% des charges de fonctionnement pour les élèves fréquentant le groupe scolaire des Vinières. Cette décision avait été justifiée par la proximité géographique du hameau. Par sa délibération du 9 avril 2015, le conseil municipal de Cavaillon a annulé cette décision, cette disposition. Pour l'année scolaire 2014-2015, la contribution de la commune du Thor s'élève donc à 5 072,84 € pour 3 élèves en élémentaire et 2 élèves en maternelle. La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 65, autre charge de gestion courante, article 657-348, subvention de fonctionnement aux autres communes.
Y a-t-il des questions avant que nous en délibérions? Oui, monsieur Olivier.
Oui, ça me permet de revenir sur la question des vinières, parce que là, maintenant, ils nous font payer les vinières. Et où on en est du fait qu'une partie des impôts des gens qui habitent les vinières sont payés à Cavaillon? Puisqu'en fait, c'est ce qui se passe depuis des années. J'avais écrit au préfet plusieurs fois, j'ai jamais rien vu venir. Mais en fait, une grande partie des habitants des vinières qui habitent sur la partie du Thor sont domiciliés sur Cavaillon, pour des questions de facilité pour la poste, et de fil en aiguille, ils sont allés s'inscrire sur les listes électorales à Cavaillon, et les impôts, ils les payent sur Cavaillon. Et maintenant, il nous faut payer la part de Cavaillon de nos élèves. Je trouve ça un peu gros.
Alors, on est sur un autre dossier. Je suis complètement d'accord sur le fait que la position de Cavaillon sur le doublement global de la participation des enfants sur les écoles est tout à fait non admissible. Malheureusement, nous n'avons pas de moyens de nous y opposer. Même si c'était une décision qui est ancienne, etc. Bon, Cavaillon a justifié cette prise de décision par, je dirais, des diminutions de dotation de l'État et qu'il est à la recherche d'économies sur l'ensemble de ses frais. Et si nous on s'opposait à cette délibération, de toute façon, le préfet prendrait d'office une... voilà, donc ça sert à rien de partir à la guerre, bon.
Non, il ne s'agit pas de s'y opposer, on la votera, oui. Mais il s'agirait de continuer à poursuivre le travail pour récupérer ce que les taurois payent sur Cavaillon.
Donc sur ce dossier qui est un peu complexe, parce qu'il y a effectivement des problèmes d'adressage, hein, des problèmes de poste, je pense qu'il faut qu'on mène une étude complète. Est-ce qu'il y en a qui se sont inscrits effectivement sur des listes électorales, mais je pense que c'est un dossier à voir et Patrick Villon, qui est originaire des Vignères, pourrait peut-être se charger de regarder ce dossier et de voir si on a effectivement des taxes foncières et taxes d'habitation à récupérer. Mais enfin, en matière de taxes d'habitation et taxes foncières, le cadastre fait quand même foi, quoi. Hein, donc je pense que on devrait facilement, si jamais il y avait eu des détournements, entre guillemets, pouvoir les récupérer. Tu parles au micro, s'il te plaît.
J'ai su qu'il y avait eu des doublons, mais bon, ça a été rectifié après au niveau des impôts.
C'est-à-dire que des avertissements avaient été envoyés.
Non, ils avaient reçu du tutor et de Cavaillon, les deux impôts. Mais bon, ça a été rectifié après, par la suite.
Donc, c'est un dossier qu'on regarde et on vous apportera réponse. Donc, je soumets à votre vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Donc, une abstention. Donc, adopté à la majorité. Le deuxième rapport traite exactement de la même chose, mais pour les écoles publiques d'Avignon. Tu nous fais plus court?
Tout à fait, oui.
Merci.
Je ne vais pas recommencer à lire le début de l'exposé des motifs. Donc ce sont les enfants de la ville d'Avignon. En application de l'article précité, le Conseil municipal d'Avignon a fixé dans sa séance du 23 juillet 2014 la contribution des communes de résidence à 805 € par élève de classe élémentaire et à 1208 € en classe maternelle. La commune du Thor a reçu de la mairie d'Avignon un courrier du 15 juillet 2015 demandant le paiement de sa contribution pour ses deux élèves, soit un montant de 1610 €. La dépense correspondante, etc. Voilà.
Très bien. Y a-t-il des questions sur ce point? Très bien. Donc, je vous propose de délibérer, d'autoriser le maire à procéder au versement de la somme de 1610 € à la commune d'Avignon pour le paiement de la participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques concernant les enfants du Thor scolarisés à Avignon au cours de l'année scolaire 2014-2015. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Le rapport suivant traite du transfert de la compétence assainissement de la commune à la communauté de communes Pays de Sorgue et Mont de Vaucluse. Donc Estelle, si tu veux bien nous la commenter. Merci.
L'article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, précise que les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. Elle délimite, après enquête d'utilité, pré-enquête publique, les zones d'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non collectif. La compétence des communes en matière d'assainissement collectif recouvre obligatoirement la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, l'élimination des boues produites ainsi que le contrôle des raccordements au réseau public de collecte. En matière d'assainissement non collectif, la seule mission obligatoire des communes consiste à assurer le contrôle des installations. Les lois du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et celle de juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, ont précisé le contenu de cette mission. Le contrôle est effectué soit par le biais d'une vérification de la conception et de l'exécution pour les installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 8 ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations. Ce contrôle permet d'établir, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer par le propriétaire. En date du 9 juillet, la communauté de communes Pays des Sorgues Mont-de-Vaucluse délibérait afin de proposer aux communes adhérentes le transfert de la compétence optionnelle assainissement dans son intégralité, c'est-à-dire l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. La gestion de l'assainissement des eaux usées au niveau communautaire présente un intérêt à différents niveaux. Tout d'abord, d'un point de vue technique, le niveau communautaire permettra la mise en commun de savoir et d'expérience et une possible synergie entre les systèmes d'assainissement. D'un point de vue financier, ensuite, la gestion au niveau communautaire permettra des économies d'échelle et une mutualisation des services et des moyens, avec, incidemment, un renforcement du coefficient de mutualisation. D'un point de vue du service rendu à l'usager, avec l'objectif d'une harmonisation vers le haut des prestations et d'une recherche d'optimisation des tarifs et de leur évolution. Le transfert de cette compétence a des conséquences en matière patrimoniale. En effet, le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite des biens, équipements et services publics utilisés à la date du transfert pour l'exercice de ces compétences. La mise à disposition des biens sera constatée par procès-verbal. En matière de contrat, le principe est la continuité des contrats. Dans le cas de la commune du Thor, cela concerne principalement le contrat de délégation de services publics lié au service d'assainissement collectif. Ceci entraîne la substitution du président de la communauté de communes dans l'ensemble des contrats. En matière budgétaire, le transfert de compétences entraînera la clôture des budgets annexes correspondants. Ces budgets seront repris au budget principal avant que le transfert des résultats soit décidé par la commune et la communauté. En matière de personnel, le transfert de compétences entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargée de sa mise en œuvre. Les procédures sont distinctes selon que les agents remplissent en totalité ou non leurs fonctions dans le service transféré. Dans certains cas, des conventions de mise à disposition peuvent être mises en place. Le comité technique a été consulté lors de la séance extraordinaire du 1er septembre 2015. Il a rendu un avis favorable au principe de transfert du service assainissement de la commune du Thor vers la CCPSMV. La commission administrative paritaire compétente en matière de transfert de personnel sera quant à elle consultée lors de la prochaine séance, 22 septembre ou 8 décembre 2015. La procédure de transfert va se dérouler en plusieurs étapes. Il s'agit aujourd'hui d'adopter le principe du transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes et la modification des statuts de celle-ci selon la proposition jointe. Pour que le préfet statue sur le transfert de compétences et la modification des statuts, il faut que la majorité qualifiée soit obtenue. Dès lors que cette mission sera confiée à la CCPSMV, cette dernière aura vocation à se substituer à la commune du Thor dans ses droits et obligations pour l'exercice de ladite compétence. Un prochain conseil municipal sera alors amené à se prononcer sur les modalités de transfert des biens et des services.
Merci. Donc, c'est pas le premier conseil municipal où nous abordons ce chapitre. Avez-vous des questions, Monsieur Olivier?
Oui. Oui. Tout simplement, quelles sont les conséquences concrètes de ce transfert sur nos agents?
Ben, en clair, à compter du 1er janvier, deux agents de la collectivité de notre commune seront transférés et passeront sous la responsabilité et donc l'autorité, je dirais, de la communauté de communes. Donc, ces agents se sont déjà rendus sur place, ont rencontré les équipes, connaissent les responsabilités qu'ils vont avoir. Bon, juste pour une information complémentaire, la personne qui s'occupe, qui est en charge, je dirais, de l'assainissement, donc Camille Froissart, occupera une fonction de numéro 2 dans le service. Donc, elle en est satisfaite puisque ses responsabilités seront étendues. Et en ce qui concerne le SPANC, il se trouve que nous avons sur le Thor un SPANC qui, par rapport aux autres communes, fonctionne de façon assez performante dans les programmes qui ont été développés, dans les compétences. Et nous pensons que Valérie, à qui nous souhaitons d'ailleurs bon courage parce qu'elle est absente pour maladie en ce moment, mais occupera une mission importante et je pense intéressante au sein de l'intercommunalité. Donc voilà, Donc, il n'y aura aucune, je dirais, aucun risque statutaire de rémunération, même leur couverture mutuelle risquera d'être un peu mieux, enfin voilà. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et c'est avec leur accord, bien évidemment, et l'accord du comité technique que ceci a été réalisé. D'autres questions ? Donc je soumets, oui, Bruno, Ripoll, je t'en prie.
Oui, concernant le transfert de biens, donc nous verrons ça lors d'une prochaine d'un prochain conseil municipal, ok. Mais est-ce qu'on a déjà une idée de ce que ça peut représenter? Il y a un procès-verbal va être établi, si j'ai bien compris. Je vois pas très bien ce qui pourrait être transféré à part des ordinateurs. Est-ce que vous avez une idée des biens qui sont concernés?
Non, il y a la station d'épuration. Alors, c'est pas un transfert de la propriété, c'est un transfert de la gestion, de la responsabilité de la gestion. Et si au bout de X années, de nouveau nous devrions reprendre le service assainissement, nous restons propriétaires des biens. Donc c'est simplement un transfert de la responsabilité, comme cela a été dit d'ailleurs. C'est la mise à disposition gratuite des biens, équipements et services, dont la station d'épuration, dont tous les réseaux de canalisation, etc. Donc c'est des biens qui sont extrêmement importants, qui ont des valeurs importantes, cumulatives importantes. C'est pas des ordinateurs. Voilà. Donc merci. Donc je soumets à votre délibération. Donc je reprends pas l'ensemble des considérants. Mais je soumets donc à votre délibération de valider le principe du transfert de compétences assainissement collectif et non collectif de la commune à la communauté de communes et d'approuver la modification de ces statuts selon la proposition qui est jointe, ceci à compter du 1er janvier prochain, dès lors que le préfet aura prononcé le transfert de la compétence, et de m'autoriser à mettre en œuvre les modalités techniques, financières et administratives relatives au dit transfert. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, donc adopté à l'unanimité. Nous traitons après quatre points qui concernent des aspects ressources humaines. Donc le premier, c'est la création d'un poste dans le cadre d'un dispositif emploi d'avenir. Marie-Hélène.
La loi du 26 octobre 2012 a créé un dispositif dénommé emploi d'avenir. Ce dispositif est destiné à faciliter l'accès à la qualification et à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sans qualification ou peu qualifiés. Sont également concernés les jeunes résidant en zone urbaine sensible et en zone de revitalisation rurale. Pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite d'âge des bénéficiaires de ce dispositif est reportée à 30 ans. Les contrats sont conclus pour une durée d'un an, renouvelable deux fois, pour un temps de travail correspondant à un temps complet. L'employeur bénéficie du versement d'une aide de l'État s'élevant à 75% du salaire brut sur la base du SMIC mensuel. Les emplois d'avenir ciblent des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale, ainsi que les fonctions logistiques associées à ces missions, entretien, secrétariat, etc. La commune, désirant d'une part remplacer l'agent qui travaillait à mi-temps au service animation culture, désormais à temps complet au centre technique municipal, et souhaitant d'autre part développer son service des sports, envisage de recourir à nouveau à ce dispositif afin de participer à l'insertion professionnelle des jeunes confrontés aux difficultés liées à la recherche d'emploi. Aussi, je vous propose de créer à compter du 1er octobre 2015 un poste administratif en emploi d'avenir à temps complet, partagé entre le service animation, culture et celui des sports. De plus, ce contrat impliquant un suivi et un accompagnement individuel, un tuteur sera désigné au sein de la collectivité. Il est à souligner que l'objectif de ce contrat de travail est de permettre une montée en compétences et en qualification du jeune recruté qui bénéficiera durant toute la durée de son contrat d'actions de formation. Elles pourront être diplômantes, qualifiantes ou simplement faire l'objet d'une attestation de formation professionnelle. Elles seront menées en priorité en partenariat avec le CNFPT, mais pourront également être suivies dans d'autres organismes en fonction des besoins identifiés.
Merci. Y a-t-il des questions ? Bruno, Ripoll, oui, je vous en prie.
Donc, si je comprends bien, nous avons un fonctionnaire qui était employé à mi-temps au centre technique et au service culture et sport, et qui est remplacé par un contractuel à temps plein, c'est ça ? Donc on a un demi-poste supplémentaire sur le service des sports. On a un demi-poste de plus. Concrètement, quelles sont les missions qui vont lui être attribuées ? Il va y en avoir un peu plus que ce que faisait l'agent précédemment, puisque juste la moitié du temps était consacré au service des sports.
Alors, petite erreur, aujourd'hui la personne qui occupe le poste est uniquement secrétariat à mi-temps à la DACA, et pas du tout au sport, pas du tout. Donc elle bascule 100% au centre technique, et nous créons un poste qui restera à mi-temps sur la DACA et qui occupera un poste à mi-temps sur les sports. Car nous voulons, comme la délibération l'a bien précisé, redynamiser ce service des sports. Donc voilà. Donc bien évidemment, c'est des missions nouvelles puisque le service des sports n'avait pas de secrétariat du tout. Affecté à 100%. Voilà.
Bien. Donc l'objectif, ça va être quoi d'augmenter les relations avec les associations sportives, de les améliorer?
Ah oui, c'est de mettre en place un véritable service des sports avec, je dirais, un programme, un suivi des associations, de la coordination entre elles, une bien meilleure gestion des équipements, des programmes, etc. quoi, bien sûr. Donc je soumets, s'il n'y a pas d'autres questions... Donc je vous propose d'en délibérer, de décider la création d'un poste en emploi d'avenir, en temps partagé, au sein du service animation culture d'une part et du service des sports d'autre part, et de m'autoriser à signer la convention et les actes nécessaires pour la mise en œuvre du dispositif. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Merci. Adopté à l'unanimité. Le point suivant traite de la création des postes de vacataires pour les temps d'activité périscolaire, baptisé TAP. Marie-Hélène Biel, spécialiste du TAP.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le service enfance de la commune propose des activités aux enfants des écoles maternelles et élémentaires du Thor sous forme d'ateliers hebdomadaires sur des demi-journées identifiées. Certaines de ces activités sont assurées par des intervenants possédant la qualification requise et pour lesquelles la commune établit un contrat de travail. D'une manière générale, les activités dispensées relèvent du domaine sportif, culturel ou artistique en lien avec le projet éducatif du territoire, PEDT. Le caractère ponctuel de ces emplois ainsi que la spécificité des activités ne permettent pas de recruter ces personnes sur un statut d'agent titulaire de la fonction publique. De plus, le mode de rémunération prévu est celui de la vacation, correspondant à une prestation quelle que soit sa durée. Conformément au décret du 15 février 88, les personnes recrutées dans ces conditions sont considérées comme des participants occasionnels à l'action publique et soumis au statut de vacataire. Pour l'année scolaire à venir, il convient donc à la fois de créer ces postes au nombre de 4 et de fixer le coût total des vacations correspondant aux différentes activités à 30 euros l'unité, soit 19 euros brut pour l'intervenant.
Merci. Donc avant d'en délibérer, y a-t-il des questions sur ce point ? Oui, Madame Agouillet.
Juste, l'année dernière, vous aviez fait appel à des prestataires de services pour animer l'étape. Cette année, si, il me semble... Oui, voilà. Oui, bon, enfin bref, il me semble, au mois d'octobre, voilà, c'était des prestations de services. Et là, donc, c'est des vacataires. Donc, je voulais savoir si ces 4 vacataires couvraient tous les besoins en animation d'étape. Ou s'il y aura d'autres prestations de services également de signer. Et je voulais savoir quelles activités ils allaient animer. Voilà.
Alors, petite rectificatif. Donc l'année dernière, nous avions trois types d'interventions. Des associations qui intervenaient et qui mettaient à disposition un agent de l'association. Donc là, c'est une facture. Ceci est renouvelé sur cette année. Le tennis, l'UST, le judo, etc. Deuxième type d'intervention, ce que nous venons de traiter, des vacataires, donc des gens qui sont rémunérés par la commune, donc qui ont une fiche de paye, voilà. Et donc nous en avions l'année dernière, nous en aurons cette année. Et troisième type d'intervention, des gens qui sont dans un statut auto-entrepreneur. Voilà, donc nous avons les trois formules qui étaient l'année dernière et qui seront cette année. Donc il n'y a pas beaucoup de modifications. En revanche, pour les emplois de vacataires, là, ça passe par une délibération du Conseil, celle que vous avez à traiter aujourd'hui. Voilà. Simplement, on peut dire que la reprise, si vous voulez, des temps périscolaires s'est très bien déroulée, que nous avons un nombre légèrement supérieur d'enfants qui se sont inscrits au TAP, hein, au fameux TAP, et nous avons affiné le système de façon à le rendre plus en adéquation avec les besoins des enfants.
Excusez-moi, je peux rajouter une question ?
Je vous en prie.
Est-ce que la rotation a été organisée entre les différentes écoles ? Parce qu'il y a trois écoles.
Alors, si vous êtes patiente, je n'en doute pas, okay. Vous aurez réponse en fin de conseil.
Okay.
Puisque ceci a fait l'objet d'une question dite verbale, mais qui est écrite, de votre collègue Jacques-Olivier. Voilà.
Merci.
Donc, je fais de la coordination entre vous deux. Merci. Donc, je vous propose en délibéré de décider la création de 4 postes. Ah, pardon. Une question. Je vous en prie. Soyez pas timide.
Je suis, contrairement aux apparences. Je voulais vous interroger sur l'ambiguïté qui peut être ressentie dans le libellé entre l'examen des motifs et les deux, trois articles. Quand dans l'exposé des motifs, il est question du coût total de la vacation correspondant aux différentes activités à 30 euros l'unité. Moi, je comprends, l'unité, c'est la vacation. Oui. Alors que dans l'article 2 de la délibération, ça devient 30 euros de l'heure. Alors, est-ce qu'il faut assimiler vacation et heure ? Parce qu'une vacation, ça peut être d'une heure et demie ou de deux heures, dans le cadre d'étapes, par exemple, ou voire trois heures.
Ben écoutez, je vous remercie, puisque vous avez posé la question, vous avez apporté la réponse. Vacation égale une heure. L'heure, c'est une vacation. Voilà.
Donc c'est le libellé n'est pas le même, mais il faut comprendre la même chose.
Si, il est le même. D'un côté, on a marqué vacation, mais on n'a pas marqué de l'heure.
L'unité, il y a écrit l'unité, donc ça se comprend comme la vacation.
Voilà, c'est des vacations d'une heure.
Voilà, donc précisé. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Donc je vous propose en délibéré de décider la création de 4 postes de vacataires, donc qui assure des vacations, afin d'assurer l'encadrement ponctuel des ateliers à caractère sportif, culturel, artistique, prévus dans le cadre des temps de travail périscolaires, de fixer le coût total de la vacation à 30 euros maximum de l'heure, soit 19 euros brut pour l'intervenant. Et bien évidemment, dit que les crédits sont inscrits au budget. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Donc 4 abstentions, merci bien. Donc adopté à la majorité. Le point suivant traite de la création de postes vacataires pour l'espace jeunesse pour l'année scolaire 2015-2016. Madame Biel, vous avez la parole. Merci.
Pendant l'année scolaire, le service jeunesse de la commune propose un programme d'activités sportives et culturelles aux jeunes fréquentant l'espace jeunesse. Ces activités peuvent être assurées sous forme d'ateliers hebdomadaires proposés aux jeunes adhérents de 12 à 17 ans. Certaines de ces prestations doivent être dispensées par des intervenants possédant la formation nécessaire et pour lesquelles la commune propose un contrat de travail. Le caractère ponctuel de ces emplois ainsi que la spécificité de la formation requise ne permettent pas de recruter ces personnes sur un statut d'agent titulaire de la fonction publique. De plus, le mode de rémunération prévu est celui de la vacation, correspondant à une prestation quelle que soit sa durée. Conformément au décret de 88, les personnes recrutées dans ces conditions sont considérées comme des participants occasionnels à l'action publique et soumis au statut de vacataire. Il convient donc à la fois de créer ces postes et de fixer le montant des vacations correspondant aux différentes activités. Alors voici ces activités. Pour l'année scolaire 2015-2016, deux activités sous forme d'ateliers sont proposées pour deux vacataires. Atelier boxe, initiation et perfectionnement. Atelier théâtre, initiation et découverte des différentes techniques théâtrales. Pour chaque atelier, la vacation est de 1h30 et s'élève à 30 euros. Voilà.
Très bien, merci. Y a-t-il avant d'en délibérer des questions? Questions? Allez-y, Mme Martin. Allez-y.
Je ne veux pas faire de l'humour ni du cynisme, mais la vacation est d'une heure trente, donc, pour le même prix.
Oui, oui, mais elle est précisée qu'elle est d'une heure trente. Voilà.
Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui travaillent une heure pour 30 euros et d'autres une heure et demie pour le même prix.
Oui, mais qui n'ont pas la même durée de contrat. Il y en a qu'on engage pour l'année, d'autres qu'on engage pour le trimestre. Donc le risque est différent. Il y en a qu'on engage pour 3 heures, d'autres qu'on engage pour des temps horaires très supérieurs. Voilà. Très bien. Donc, pas d'autres questions? Oui.
Pour la personne, il est quand même payé moins proportionnellement au temps qu'il fait, quoi. C'est clair.
Oui, mais quel est le problème? S'il n'y en a pas, on n'en parle pas. Voilà. Donc je vous propose d'en délibérer et de mettre en place deux ateliers pour les jeunes inscrits auprès de l'espace jeunesse CityView, un atelier boxe et un atelier théâtre. Ces deux activités auront lieu entre le 22 septembre 2015 et le 1er juillet 2016 et décider la création de deux postes de vacataires afin d'assurer de l'encadrement ponctuel de ces ateliers rémunérés selon le tarif suivant, donc identique de 30 euros, et dit que les crédits sont inscrits. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? 4 abstentions, je vous remercie. Donc le point suivant traite simplement de la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel communal. Donc je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une augmentation du nombre de personnes, mais d'un ajustement des différents postes, donc en fonction des besoins, je dirais, de la collectivité, de l'évolution de carrière des agents. Donc la création d'un poste de technicien territorial principal de deuxième classe, car nous anticipons pour le remplacement du responsable espace vert, donc qui a quitté la commune, ou instructeur, autorisation d'occupation des sols. Et la création d'un poste de technicien territorial de première classe, pour le remplacement également de ce poste-là. La création d'un poste d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe, correspondant au recrutement du responsable propreté urbaine, qui est en cours, et de façon corrélative, la suppression des 3 postes d'adjoint technique territorial de première classe, qui n'ont plus cours actuellement dans la collectivité. Donc le tableau vous a été remis avec les réajustements. Vous voyez apparaître les +1, +1, +1 et le -3, ce qui ne change pas donc le cumul du nombre de gens en poste sur la commune. Y a-t-il des questions? Très bien, je vous propose d'en délibérer donc et d'approuver ce tableau qui est informatif effectivement, et bien évidemment on précise que la rémunération et les charges sociales correspondant aux emplois sont bien inscrits au budget de 2015. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. La délibération suivante, pour laquelle je demande à Lionel Gomez de bien vouloir sortir pour éviter les conflits d'intérêts, qui est l'attribution de subventions aux associations toroises pour les actions réalisées dans le secteur de la solidarité. Et donc, c'est Laurent Bresson qui nous la commente. Merci, Laurent.
Donc la commune attribue aux associations déclarées des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Donc rien n'a changé par rapport aux années précédentes. Le montant annuel de la subvention versée pour l'ensemble des actions est plafonné à 2400 euros par association. Je rappelle, donc 30% pour les actions dans le domaine de l'animation, loisirs et des relations extérieures, 40% pour les actions dans le domaine de la culture, du sport, de la citoyenneté, de l'environnement et de la jeunesse, et 60% pour les actions dans le domaine de la solidarité. Donc l'Amicale des sapeurs-pompiers du Thor est l'association concernée. Cette association a pour objet de subvenir en partie aux frais de fonctionnement du centre de secours, d'améliorer la vie de la caserne, de former le personnel et le grand public au secourisme et d'organiser les fêtes et événements liés au corps des sapeurs-pompiers de manière générale. En 2015, la caserne du Thor célèbre ses 80 ans d'existence et accueille par là même le congrès départemental des sapeurs-pompiers de Vaucluse. Cette manifestation aura lieu le 10 octobre prochain. À cette occasion, seront présentés et exposés les différents véhicules. Le public pourra découvrir le métier de pompier et observer différentes manœuvres. Il est prévu un budget prévisionnel de 5 484 euros. Vu l'ampleur de cette manifestation, il est proposé une subvention forfaitaire de 2 400 euros.
Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Oui, monsieur Olivier.
Juste une observation. Tout d'abord, on se félicite de l'organisation du congrès départemental de Vaucluse. Des sapeurs-pompiers ici sur le Thor, mais... Puisqu'on parle de solidarité, il ne nous a pas échappé que Madame Mérigot était absente pour la troisième fois de suite au conseil municipal. Et une adjointe qui s'occupe aussi de solidarité et qui est absente trois fois de suite, ça interroge.
J'ai pas vérifié ce point, mais Madame Mérigot, je peux vous le dire, est complètement impliquée dans la démarche sociale. Notamment au travers du CCAS, dont elle assure une présidence déléguée. Elle y consacre énormément de temps, et Madame Mérigot est en vacances, donc je pense que tout un chacun a droit à des congés. Et donc, puisque vous parlez de Madame Mérigot, je tiens à saluer son investissement dans la cause du social sur la commune. Voilà, je vous remercie de l'avoir cité. Donc, puisqu'il n'y a pas de questions sur le sujet... Donc je propose d'en délibérer et d'attribuer donc une subvention de 2400 euros à l'Amicale des sapeurs-pompiers du Thor pour l'organisation du congrès départemental de Vaucluse, fêtant les 80 ans de la caserne du Thor. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc merci pour eux, ils vous remercient. Vous pouvez faire rentrer Monsieur Gomez. Monsieur Gomez, on est content de vous accueillir. Tant que le préfet n'a pas validé cette délibération, je ne peux rien vous annoncer. Il faudra attendre demain ou après-demain. Merci. La dernière délibération traite d'une délibération modificative. Elle traite des finances. C'est la délibération modificative numéro 2. Je vous donne 2-3 mots d'explication. Vous savez que lorsque... un lotissement est créé, a été institué au sein de notre commune, une PVR, une participation pour voies et réseaux. C'est une taxe. Cette taxe est normalement perçue lors de l'attribution du permis de construire. Il se trouve que sur notre commune, historiquement, lorsque un particulier a voulu créer un lotissement, il a demandé un permis de lotir. Et c'est à ce moment-là que la collectivité a sollicité, lui a facturé cette PVR pour un montant, je dirais significatif, hein, mais certainement justifié, de 269 000 euros. Ce particulier donc a poursuivi au tribunal administratif en contestant d'une part le calcul de la PVR, mais en contestant aussi le moment de son versement, au moment où ça a été sollicité. Néanmoins, il a été tenu de payer cette taxe. Donc les sommes ont bien été encaissées par la commune, mais les sommes ont été mises en provision, puisque l'entreprise en question, ou le particulier en question, avait attaqué en justice. Et donc, par sécurité, la commune, c'est bien qu'elle l'ait fait, a passé ceci en provision comme si la somme devait être rendue. Et il se trouve que le tribunal administratif lui a donné raison, d'une part en première instance et ensuite en appel, sur le fait que cette taxe ne devait pas être sollicitée et donc perçue au moment du permis, au moment du permis de lotissement, mais postérieurement au moment de la délivrance des permis de construire. Donc, moyennant quoi, aujourd'hui, nous devons exécuter cette décision, car c'est une décision de justice, nous devons l'exécuter et donc annuler, je dirais, cette provision et si on ne fait pas d'autres actions après, on doit reverser les fonds. Voilà. Et pour faire cette opération, il faut passer par une écriture budgétaire. Inutile de vous dire que, après avoir fait cette première opération, si votre conseil le délibère, le valide, bien évidemment, nous allons représenter un titre afférent au permis de construire, en espérant que cette fois, les choses se passent bien et que ça n'aille pas en justice. Mais j'avoue que je n'en suis pas certain du tout. Donc, simplement pour vous dire que la collectivité avait pris la précaution de mettre cette somme en provision, de ne l'a pas enregistrée dans son compte de résultat. Donc, le fait qu'on ait été condamné et qu'on annule le titre, on ne va pas être amené à passer une charge de 269 000 euros, sinon ce serait un peu plus que douloureux. Et que d'autre part, une fois qu'on aura annulé ce titre, nous allons en représenter un autre. S'il n'y a pas d'attaque en justice, ben on passera pas de provision. Et s'il y a une attaque en justice, on repassera une provision comme ça avait été fait préalablement. Alors ceci passe par une délibération modificative du budget. Donc on rappelle que notre conseil a adopté le 16 décembre 2014 le budget primitif, que celui-ci a d'abord été modifié en date du 24 mars 2015 afin d'inscrire le produit fiscal attendu suite à l'adoption des taux sur les taxes directes locales. Puis, le 16 juin 2015, le conseil municipal a adopté le budget supplémentaire 2015, reprenant les résultats du compte administratif clôturé à la fin de l'année 2014. Donc, vous avez les montants. Aujourd'hui, il est donc indispensable d'inscrire les crédits qui sont nécessaires à l'annulation d'un titre, c'est ce dont je viens de vous parler, qui a été émis en 2011, vous voyez que c'est une affaire un peu ancienne, et qui a été annulé par la Cour administrative d'appel de Marseille. La suite des éléments liés à ce dossier, notamment la reprise de la provision, sera présentée lors du Conseil municipal du mois d'octobre et fera l'objet d'une nouvelle délibération modificative. Bon, là, on est dans des jeux d'écriture. Ça me permet de vous donner cette information, mais on est dans des jeux d'écriture. Donc, concernant les dépenses, la Cour administrative d'appel de Marseille, dans son arrêt du 7 mai 2015, a décidé l'annulation du titre exécutoire émis en juillet 2011, concernant la participation pour voirie réseau. Afin d'exécuter cette décision, les crédits nécessaires, à savoir 269 000 euros, doivent être inscrits au budget au chapitre 13, subvention d'investissement, à l'article 1346, participation pour voirie et réseau. Concernant les recettes, pour financer cette nouvelle dépense, l'emprunt prévisionnel doit donc être augmenté de 269 000 euros, le portant à 3 244 812,66. L'ensemble de ces mouvements de crédit nécessite une délibération modificative résumée dans le tableau faisant l'objet de l'article 1 du projet de la délibération. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Monsieur Olivier.
Oui, simplement pour constater que le calcul de la PVR était donc juste et qui n'est plus remis en cause, ce que le tribunal avait déjà dit lors du précédent jugement. Donc le titre exécutoire sera refait après un autre vote. La perceptrice, est-ce qu'elle fera la même opération ?
Quelle opération ?
Je suppose qu'au niveau des comptes du Trésor, il doit y avoir la même somme qui est en réserve et qu'il faut faire un jeu d'opération également, non ?
Vous pouvez préciser votre question pour qu'elle soit un peu claire à tout le monde, parce que à mon niveau, je comprends pas la question, je m'en excuse.
Du moment que la commune a mis, a inscrit 269 000 euros en réserve, on dira, je suppose que la perceptrice de son côté avait bloqué ces 269 000 euros aussi sur un compte au niveau de la perception. Est-ce qu'elle va être obligée de faire le même jeu d'écriture que nous faisons? Et est-ce qu'il nous faut donc prendre une délibération, ou est-ce que cette délibération suffira à la perception pour pouvoir faire les opérations de son côté?
Voilà,
apparemment, ça doit suffire, puisque je vois que vous êtes pas, que ça vous inspire pas. Donc,
c'est un peu comme là, tout à l'heure, Mme Martin posait la question, il y a la réponse, donc voilà. Donc, cette délibération va pouvoir être présentée donc à la trésorerie, et ça sera suffisant pour qu'elle fasse l'ensemble des opérations. Bien évidemment, on a anticipé les choses et on s'est entendu avec. Je reprends quand même un point. Vous êtes d'un optimisme délirant, monsieur le conseiller municipal, en disant qu'il n'y aura pas de soucis ensuite. Je dis bien délirant, parce que c'est la même chose, exactement la même chose, qui m'a été communiquée comme information lorsque j'ai pris les manettes de la commune il y a un an et demi, et nous avons perdu au tribunal. Dans une première instance, on a perdu en deuxième instance. Donc, bien évidemment, on va essayer cette fois de prendre toutes les précautions. Je ne peux pas en dire plus pour pas affaiblir notre position, mais je ne mettrai pas un billet de 100 euros sur la sécurité totale de récupérer cette somme. Je tiens à le dire. Voilà.
Vous voulez parler du calcul de la PVR qui avait été faite
à l'hôpital de la montants, du montant de 200...
Pas la mienne, celle d'avant. Hein.
Je prends...
C'est quelque chose qui date de Christian Royer, je crois, d'ailleurs. Ou même avant toi.
En 2011, Christian Royer n'était pas là. Toi. Il ne faut pas noyer le poisson.
Le calcul de la PVR, il avait été... L'opération, elle a été faite avant que j'arrive, quand même. Et donc, c'est parce que les permis de lotir ont été donnés à ce moment-là, en 2011... que le titre a été fait, mais le calcul de la PVR, c'est pas de mon époque que ça a été fait, c'est l'époque précédente.
Mais
je le précise pour ceux qui ne le sauraient pas.
Je sens qu'il y a un terrain qui vous est pas très favorable. Mais écoutez, moi je ne parle pas de ça, monsieur le conseiller municipal. Je parle du montant de 269 000 euros, où l'enjeu c'est ou zéro ou 269 000 euros. Donc voilà. Donc que Dieu vous entende si vous avez une sécurité, que nous allons être payés. Bon, donc je soumets, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce point un peu difficile, je soumets à votre délibération donc de modifier les crédits du budget principal de l'exercice 2015 comme indiqué dans le tableau, que je ne vais pas vous reprendre, si ce n'est de créer une dépense de 269 000 euros et dans le cadre investissement de créer une recette de 269 000 euros. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci, donc adopté à l'unanimité. Très bien. Alors, nous arrivons à un point qui j'ai souhaité mettre, je dirais, en échange entre nous, en débat, mais il n'y aura pas de vote, ça ne fera pas l'objet d'une délibération, mais un échange sur le dossier qui traite de l'accueil des migrants. Alors, je pense que personne autour de la table n'ignore le problème qui est posé, je dirais, à notre pays. D'abord, nous sommes abreuvés d'informations, abreuvés de communications télévisées, etc. Bon. Donc, nous avons affaire à un phénomène qui, dans l'histoire, s'est déjà produit, mais qui, dans notre histoire récente, est quand même un phénomène absolument exceptionnel, puisque un certain nombre de personnes sont en train de fuir ce qui est une guerre, hein, sont en train de fuir des bombes, sont en train de fuir des tueries et sont en train aussi de fuir un système organisationnel politique qu'ils refusent. Et ils vont là où, a priori, il y a plus de liberté, c'est-à-dire ils vont vers l'Europe occidentale. Donc notre pays s'est prononcé, par l'intermédiaire du gouvernement, s'est prononcé favorablement pour accueillir un certain nombre de migrants. Il a chiffré à 24 000 migrants. Le chiffre sera-t-il 24 000 plus? Bon, ça pose question, mais toujours il s'est positionné au sein de l'Europe comme étant un pays capable d'accueillir. Quand l'État décide quelque chose, vous savez, l'État, il n'est jamais constitué que de multiples communes. Donc ça veut dire que ces personnes que l'État a décidé d'accueillir, il faudra bien les recevoir et les loger dans des endroits que sont les communes. Donc lorsque nous avons entendu, je dirais, cette problématique, finalement, il y avait deux positions possibles. La première, c'était de dire « le Thor n'accueillera aucun migrant », comme on fait multiples communes. Bon, c'est une position qui est une position globalement assez facile. Elle va un peu dans l'air du temps. Voilà. Mais c'est pas comme ça que nous avons voulu positionner notre commune. Nous estimons qu'en face de ce qui est quand même une guerre de civilisation, en face de ce qui est quand même un désastre, un risque absolument considérable pour des êtres humains, quels qu'ils soient, notre commune ne peut pas fermer ses portes, ne peut pas vivre comme dans un bastion. Et donc, nous nous sommes positionnés, et c'est le débat que je vous propose d'ouvrir, pour un accueil. En revanche, nous souhaitons que cet accueil soit dans un contexte d'une part encadré. Il ne s'agit pas de dire, hop, les portes ouvertes, etc. Encadré. Et deuxièmement, dans une démarche collective. Encadré, ça veut dire que notre commune serait prête à mettre à disposition deux appartements qui sont de sa propriété, qui sont des appartements d'urgence, qui sont utilisés par des personnes qui doivent être logées en urgence. Certaines ont fait durer un peu l'urgence, il faut le reconnaître, mais toujours est-il que nous avons en ce moment deux appartements. L'accueil de ces migrants pour leur identification, leur accompagnement sera fait bien évidemment sous couvert et en relation très étroite avec la préfecture, hein, c'est un point qui est important, et nous souhaitons que ceci soit fait également dans une démarche qui soit collective. C'est pas la mairie toute seule hein, qui fait ça, et cette démarche collective, nous souhaitons associer toutes les personnes qui sont investies dans le social sur notre commune, le CCAS bien évidemment, les associations, je dirais, caritatives, je pense à Le Thor Tous Ensemble pour Tous, à Famille de France, l'association du Secours Catholique, l'association du Téléthon, et les différents élus qui sont en charge du social au sein de notre conseil municipal. Et je propose d'y associer d'autres bénévoles, personnes qui seraient, je dirais, intéressées. Donc de façon à ce que les choses soient d'une part cadrées et d'autre part transparente, car il ne s'agit pas de faire ceci de façon en catimini, je propose de créer un comité de pilotage qui sera présidé par Marie-Hélène Biel, qui réunira l'ensemble, je dirais, des associations ou des personnes concernées que je vous ai citées pour cadrer les choses et surtout pour pouvoir communiquer aux gens qui le souhaiteraient, hein, puisque les Taurans ont le droit de savoir, comment nous organisons, je dirais, cet accueil. Donc nous souhaitons que ce soit un accueil au niveau de la capacité de la commune, donc je pense que deux familles, c'est tout à fait dans le domaine du possible. Il faut savoir que j'ai eu quelques propositions de particuliers qui étaient prêts également à accueillir ou à mettre à disposition des logements, donc on verra comment on fait ça, mais nous souhaitons que ça soit, je dirais, encadré. Alors c'est pas un dossier, je dirais, facile, et c'est pour ça que je proposais que nous puissions en débattre de façon très très transparente et sans aucune arrière-pensée d'aucune sorte, parce que je pense que quand on tend la main à quelqu'un, on n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre, on est un être humain qui s'adresse à un autre être humain. Donc voilà comment je voulais positionner, si vous voulez, ce débat, et je laisse la parole à ceux qui souhaitent intervenir.
Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs, donc, pour ne pas mourir de honte, la France ne peut pas laisser mourir des personnes réfugiées, notre commune non plus, quand, on le sait, des pays bien plus pauvres que nous font en ce moment des efforts très importants. De plus, il est évident qu'on ne demande pas ses papiers ni sa religion à quelqu'un qui se noie, on le sauve d'abord. C'est pour cela que, fidèle aux valeurs de la République, à la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité, mais aussi à la morale, aide ton prochain, à l'esprit de la Révolution française, tout homme est un citoyen, et tout simplement à la tradition française d'accueil des réfugiés, il est tout à l'honneur du tort d'accueillir dans la dignité, la tolérance, sans discrimination, dans le respect de la loi, des réfugiés, et j'en profite pour remercier les Thorois et les Thorois, qui, comme de nombreux Français, ont fait des propositions, comme vous venez de dire, monsieur le maire, pour accueillir ces réfugiés. Comme beaucoup de nos concitoyens Thorois, certains d'entre nous, ici, autour de la table, sont issus de parents réfugiés, que ce soit des Arméniens, des Italiens, des Espagnols, ou des boat people asiatiques. Pour les dernières grandes vagues de migrants. Il est donc naturel que cet accueil se perpétue, puisque de toute façon, l'histoire de l'humanité n'est que l'histoire des migrations depuis toujours, et l'humanité s'est construite de cette façon par la rencontre des cultures différentes. Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, seule région en France à ce jour, s'est réuni hier en assemblée plénière extraordinaire pour affirmer sa solidarité et dire, comme nous avions dit, nous sommes tous Charlie, nous sommes tous méditerranéens. Un numéro d'appel d'urgence a été ouvert, il s'agit du 04 91 57 55 55. Chacun peut appeler pour se renseigner. Une enveloppe de 3 millions d'euros a été votée pour l'ensemble des actions qui répondent aux interventions votées, notamment soutenir directement ou indirectement, dans le cadre de ses compétences, les communes volontaires comme villes refuges. Ça peut concerner le tort. Mais aussi pour interpeller l'Europe sur sa responsabilité, notamment en réaffectant un certain nombre de fonds européens non engagés. Il s'agit là de millions d'euros, de centaines de millions d'euros. En disant également que les migrations climatiques ont déjà commencé, souvent à l'intérieur des pays concernés, ce qui fait qu'on ne s'en aperçoit peut-être pas toujours de l'extérieur, mais elles vont prendre de l'ampleur. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, je ne sais pas si c'est une guerre de civilisation, mais ce qui est certain, c'est que c'est aussi une guerre pour le pétrole. Que ce soit les migrations dues à la submersion des terres ou celles pour la conquête des matières premières, dont le pétrole. Il faut donc une politique globale de la part de l'Europe sur ces sujets, mais aussi mondiale, et c'est notamment le rôle de la COP21 qui se déroulera à Paris en décembre. Pour en revenir au tort, un seul regret pourtant, monsieur le maire, celui que vous n'ayez pas continué de recevoir ici au tort, comme je l'avais fait, avec toute mon équipe, la magnifique manifestation « C'est pas du luxe », portée par la Fondation Abbé Pierre, qui se déroulera ce week-end à Apte. Cela aurait montré que notre commune, le Thor, était sensible au dénuement, à la précarité de tous les hommes, qu'elle refusait toute misère d'où qu'elle vienne, chez nous en France ou ailleurs de par le monde. Quand quelqu'un souffre, il faut l'aider. Du coup, votre solidarité s'en trouve bancale et du coup pas vraiment universelle.
Bon, y a-t-il d'autres interventions? D'accord. Je pense que sur un problème comme ça, on peut éviter la politique, quoi. La petite politique, là. Toute petite politique. Je pense que ça serait bien quoi, voilà, qu'on prenne un peu de hauteur. Donc ceci... Ah, attendez, j'ai demandé s'il y avait des questions. Il n'y en avait pas, mais c'est une question?
Non,
c'est spontané. D'accord.
Je ne l'ai pas pensé préalablement.
Je vous en...
Non. Je voulais vous dire que j'adhérais personnellement à ce que vous aviez dit et déclaré à la radio. Je ne sais plus si c'était hier ou... Voilà. Et je trouvais que votre propos était tout à fait humain et celui qu'il fallait tenir, il n'y avait rien à ajouter, rien à enlever. Je voulais vous le dire. Et ça m'a rendue assez heureuse et plutôt fière de voir que la commune du Thor respectait les droits de l'homme et du citoyen, respecter le préambule de notre Constitution et respecter également le droit d'asile et tout ce qui relève des accords de Genève. Et donc je suis très fière que nous ne pourrons pas passer aux yeux de quiconque pour une commune pratiquant le rejet et la xénophobie. Je tenais à vous le dire.
Merci, Madame Martin, de votre intervention. Merci bien. Donc, cette décision ne fait pas l'objet, comme je vous l'ai dit, d'un vote, hein, d'une délibération. Mais bon, donc nous allons démarrer. Les bonnes volontés seront bien évidemment accueillies. Hein. Donc, Marie-Hélène Biel va présider ce comité de pilotage qui va se tenir dès la semaine prochaine. Et bien évidemment, en étroite relation avec la préfecture, en espérant que les lourdeurs administratives ne seront pas au rendez-vous d'un sujet comme ça, parce que il y a des gens qui aujourd'hui dorment dans la rue quand même en France. Hein, voilà. Très bien. Donc merci. Nous clôturons ce chapitre. Donc nous terminions par ce qui est baptisé les questions verbales, mais qui sont des questions écrites. Donc Monsieur Jacques Olivier, au nom du groupe Dynamique et Solidaire, je ne me trompe pas. Nous a adressé des questions, donc je lui laisse les lire et je lui répondrai ensuite. Merci.
Monsieur le maire, donc ce sont des questions orales, hein, telles que stipulées dans le règlement intérieur du conseil municipal. Première question, donc le soir du 13 juillet, le bal a eu lieu place du Fer à Cheval, loin des bars et des commerces, alors qu'il y a une piste de danse place du 8 mai et du 11 novembre. Du coup, les deux bars et la pizzeria ont baissé leurs rideaux en signe de protestation. Par ailleurs, la présidente du comité des fêtes a démissionné. Monsieur le maire, voyez-vous un rapport de cause à effet entre ces deux événements? Question numéro 2. La rentrée a eu lieu et les activités périscolaires vont reprendre. Lors de la précédente année scolaire, vous vous étiez engagé à ce qu'il y ait une rotation des plages consacrée au TAP entre les trois écoles. Cela n'a pas été le cas. Qu'en sera-t-il cette année? Véronique Agoguet-Fernayon avait un peu précédé cette question. Question numéro 3. Le très gros orage du 23 août a provoqué une inondation impressionnante de la chaussée sous le tunnel de la route de Cavaillon, dont les conséquences auraient pu s'avérer dramatiques. Pourquoi les pompes n'ont-elles pas été activées? Question numéro 4. Nous n'entendons plus parler du projet d'extension de l'EHPAD de notre commune, comprenant une unité d'Alzheimer. Celui-ci serait-il abandonné? Lors du mandat précédent, ce projet tenait fortement à cœur Madame Biel, qui n'avait jamais de mots assez durs pour dénoncer les lenteurs de l'opération, qui aura demandé au directeur de l'époque, M. Le Cuireau, des mois de travail. Nous souhaiterions, Monsieur le maire, que vous nous présentiez les initiatives que vous avez prises depuis avril 2004 pour faire avancer ce très important dossier de l'EHPAD. Dernière question, les Thorois le disent et vous l'écrivent, le centre-ville du Thor n'est plus nettoyé régulièrement comme il était auparavant. Vous avez fait campagne sur la propreté de la ville, notamment en allant nettoyer la boîte aux lettres de la Poste, mais il semblerait que les méthodes que vous utilisez soient peu efficaces. Quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre un terme à cette situation? Merci de vos réponses.
Merci. Donc, c'est les réponses du maire aux questions verbales posées par écrit par le groupe Dynamique et Solidaire. Donc, monsieur le conseiller municipal, nous répondons à vos questions, même si le délai de 5 jours francs entre le dépôt de votre courrier et la tenue du présent conseil municipal n'a pas été respecté par vos soins, comme vous l'exigiez durant 6 ans. Mais nous répondons. Question numéro 1. Ça traitait du comité des fêtes. La présidente... Mais vous permettez, monsieur...
Monsieur Olivier, pendant 6 ans, tous les jeudis après-midi, je venais déposer ma lettre.
Non,
vendredi matin.
Mais, monsieur le conseiller municipal, it's a joke, puisque vous voyez bien, on vous répond, alors vous voyez... C'est juste pour souligner un peu la différence de traitement. Voilà, c'est simplement. Voilà. Question numéro 1, comité des fêtes. La présidente du comité des fêtes démissionnaire a pris soin de donner par écrit les raisons de sa démission. Elle a eu l'opportunité de prendre un emploi à temps plein qui nécessitait un investissement incompatible avec une fonction de président du comité des fêtes. Donc toute autre interprétation sera non conforme aux faits et serait, à mon avis, pas très courtois vis-à-vis de cette personne. Question numéro 2. Les activités périscolaires ont repris depuis 10 jours maintenant. En 2014, nous nous sommes engagés à réaliser une consultation des écoles sur l'aspect de la rotation des plages hebdomadaires des TAP. Ceci a été réalisé démocratiquement et par un vote dans chaque conseil de classe courant du second trimestre 2015. De façon majoritaire, les écoles ont retenu un non-changement pour 2015-2016. Nous avons tenu à respecter ce vote. Question numéro 3. Ça traite de l'orage. Il convient de rappeler que lors du gros orage du 23 août dernier, il est tombé sur notre commune environ 90 mm d'eau en moins de 90 minutes. Il s'agit d'un phénomène tout à fait exceptionnel, heureusement. Durant plus de 3 heures, l'électricité d'une dizaine de communes, dont la nôtre, aux alentours, a été coupée. Ceci a eu pour conséquence un arrêt immédiat des pompes de relevage qui fonctionnaient et donc a créé une accumulation d'eau sous le tunnel du chemin de fer route de Cavaillon. Je précise que les pompes de relevage ne sont pas asservies à un groupe électrogène et que nous n'envisageons pas de le faire. Question numéro 4. Le projet d'extension de l'EHPAD dont vous parlez, effectivement, n'a pas pu voir le jour durant toute votre présidence de l'établissement. C'est donc, à très juste titre, que Mme Biel a dénoncé les lenteurs de ce dossier. Le non-aboutissement de ce projet fut lié à son incohérence. Incohérence en termes de dimensionnement, beaucoup trop important et limite du gigantesque. En termes financiers, puisque plus de 7 millions d'euros auraient été nécessaires pour le mener à bien. Et en termes d'incidence sur le prix de journée des pensionnaires, ce qui n'était pas admissible, ni par le Conseil général, puisqu'à l'époque il s'appelait Conseil général, ni par les pensionnaires. L'Agence régionale de santé et le Conseil général ont clairement indiqué leur opposition à ce projet. Le projet de l'unité Alzheimer n'a donc pas abouti, ce qui est regrettable. L'EHPAD a connu de plus une absence de directeur durant six mois en 2014. Depuis la nomination du nouveau directeur en fin d'année 2014, nous avons revu complètement le projet de l'établissement. 2 audits, l'un interne et l'autre externe, ont été réalisés et un nouveau projet d'établissement est en cours de finalisation afin de redonner une dynamique à notre maison de retraite. Le conseil d'administration tenu en juin dernier a validé ces projets. L'unité Alzheimer verra le jour courant décembre de cette année 2015 au premier étage de l'établissement par une réaffectation des espaces. Les personnels affectés à cette unité sont en cours de formation. Votre question me donne l'occasion de louer le travail de l'équipe d'encadrement sous la direction de Dominique Charlier, le nouveau directeur, avec qui nous travaillons en étroite collaboration et dans un climat de confiance. Question numéro 5. La question du nettoyage des rues de notre commune est assez récurrente. Certains se souviennent des problèmes rencontrés et non solutionnés il y a quelques années. Conscient des besoins, nous avons décidé de recruter un encadrant du service voirie qui a été sélectionné et qui sera opérationnel courant octobre 2015. La mission première de cet encadrant sera effectivement de revoir les méthodes, comme vous en parlez, qui sont en place depuis plusieurs années et qu'il convient de modifier. Je vous remercie. Notre conseil municipal est clôturé. Merci bien.